Vous écoutez France Musique.
Merci beaucoup Thierry Beauvert, passez un bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis fidèles du parti d'en jouer, fidèles au poste à cette heure sacrée où les confidences des musiciens qu'on dit jeunes nous nourrissent et nous donnent une image radiophotographique de ce qu'ils sont dans leur époque, de leur rapport à la musique comme objet, métier, passion, chemin de croix. Eh bien ce soir, nous recevons un pianiste des hautes montagnes, bien qu'il vienne d'un pays où le lac est plat et que jusque-là, eh bien finalement, rien d'anormal. Il aime, lui, regarder là-haut et surtout faire l'ascension des cimes les plus inaccessibles. C'est son histoire, sa vie, ce qu'il est et ce qu'il fait que nous allons découvrir. Bienvenue au pianiste Guillaume Vincent et bienvenue à vous. Bienvenue à vous, Guillaume Vincent.
Merci.
Bonsoir.
Merci de m'accueillir dans votre émission.
Merci de venir. Surtout que vous revenez de New York.
Oui, je reviens d'un voyage de New York. J'ai la chance d'avoir une copine qui habite dans cette ville formidable. Et je reviens tout juste du voyage. Je suis arrivé ce matin. J'ai eu le temps de faire une sieste avant de venir à l'émission. J'ai failli rater d'ailleurs le réveil. Donc je suis bien content d'être là.
Est-ce que vous aimez les voyages en avion ?
Oui, j'adore ça. J'ai toujours adoré l'avion. J'ai jamais ressenti de crainte, de peur, des turbulences, etc. Mais j'adore ça, voyager. Donc, en général, quand les gens me disent « mais tu n'as pas trop de problèmes de jet lag, tout ça », en général, non, je m'en sors plutôt bien et j'arrive à dormir, à me reposer assez rapidement.
Il paraît que l'angoisse, ça vient en vieillissant, avec l'âge. Et je crois que je ne sais plus si c'est Alfred Brendel qui disait ça, ou Maurizio Pollini, mais que finalement, plus on vieillit, plus on est stressé en montant sur scène.
Écoutez, moi, l'angoisse n'a pas été vraiment un problème jusqu'à présent. Peut-être qu'un jour, effectivement, en vieillissant, j'aurai plus de doutes sur la scène par rapport à moi-même. Il y a peut-être plus de remise en question à partir d'un certain âge. Mais je ne pense pas être un grand stressé de nature. Je ne dis pas que je resterai comme ça toute ma vie, mais pour l'instant, ça ne m'a jamais coûté.
Donc, est-ce que ça veut dire que rien ne vous angoisse ?
Je pense que pas grand-chose m'angoisse, en tout cas. Dans le métier, après, on a tous nos angoisses, évidemment, c'est très humain. Et on a besoin de se remettre en question également, très souvent, que ce soit dans la musique ou dans la vie de tous les jours.
En tout cas, merci à vous, hein, Guillaume Vincent, de venir, malgré le jet lag. On va passer une heure ce soir ensemble. Adressez votre portrait, à commencer par ce deuxième mouvement magnifique de la 5e symphonie de Beethoven avec Tchelibidac. Que cette version est magnifique. Le deuxième mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven par le Philharmonique de Munich, dirigé par le grand Cheli Bidak, pour ouvrir votre partie d'en jouer, Guillaume Vincent. Pour vous, c'est avant tout un souvenir d'enfance. Vous avez 7 ans, vous regardez un film autour de Beethoven, et c'est un moment, vous me disiez, qui apparaît quand Beethoven est conscient qu'il va perdre l'audition.
Oui, alors c'est effectivement un film que j'ai découvert très tôt. Je sais que je devais avoir 7-8 ans. C'est une époque où mon père me faisait voir beaucoup de films, parce que mon père est un passionné de cinéma. Et on peut même dire que j'ai découvert la musique classique à travers ce film, et plus généralement à travers Beethoven. J'ai des très vagues souvenirs à partir de ce film, des scènes qui me sont restées en tête, mais plus que des scènes, la musique de Beethoven, certains fragments de sa musique, dont ce deuxième mouvement de la symphonie numéro 5, qui est resté très très longtemps dans ma tête par la suite. Et effectivement, il me semble que c'est un moment très douloureux et très dramatique dans ce film et dans la vie de Beethoven. C'est un moment où il se rend compte qu'il ne peut plus entendre le chant des oiseaux, où il comprend qu'il est sourd, donc c'est terrible. Et puis en même temps, il entend tout, il y a cette espèce d'optimisme beethovenien que je trouve absolument magnifique, et très bien rendu par Cheli Bidak, évidemment.
Est-ce que cette capacité à s'émerveiller, ça me nuise avec le temps ?
Je parle
de l'écoute, parce que c'est vrai que au-delà de vous poser la question de est-ce que vous pourriez imaginer un jour perdre l'audition, avant ça, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que vous entendez mieux ou différemment, ou que vous vous émerveillez plus difficilement que quand vous aviez 7 ans ?
J'ai l'impression que plus les années passent, même si je sais que je suis encore jeune, entre guillemets, j'ai l'impression que je m'émerveille un peu plus à chaque fois en écoutant des pièces que j'adore. Et je n'hésite d'ailleurs pas à réécouter encore et encore ce genre de pièces qui me laissent beaucoup d'émotions, parce que à la fois ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Et bon, entre-temps, j'ai étudié l'harmonie, j'ai été au Conservatoire de Paris, j'ai une oreille plus formée et plus fine, et j'entends des subtilités que je n'entendais pas avant, évidemment. Et je pense que j'en reparlerai encore dans quelques années différemment. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs avec la musique, pas forcément classique, mais avec la musique en général, c'est d'avoir cette impression qu'on évolue et qu'elle nous fait évoluer.
Alors, travail sur l'horizontalité, c'est vrai qu'en préparant le parti d'en jouer, on en parlait beaucoup pour Cheli Bidak, ces grandes lignes, cette notion de clarté, l'étirement dans le temps.
Oui.
Est-ce que vous, dans votre travail de pianiste au quotidien, ça vous permet de vous échapper un petit peu de l'attraction de la verticalité qu'on ressent au piano avec ses 10 doigts ?
Moi, j'essaye d'oublier qu'il y a 88 touches et qu'on a 10 doigts, dans le sens où la première fois que j'ai écouté Cheli Bidak, j'étais tout de suite fasciné. Et je me suis senti intimement proche de sa façon d'interpréter. Je n'ai pas la prétention de dire que j'interprète de la même manière que lui, mais je pense que c'est un exemple et que c'est une énorme influence pour moi dans mon travail de tous les jours. C'est quelqu'un qui me fait oublier que le tempo existe, par exemple, qui va prendre une phrase, qui va la sculpter, qui va vraiment donner de l'importance à chaque note, de faire en sorte que chaque note représente une phrase construite. Et quand on se rend compte de ça et quand on essaye d'imiter ça dans son travail personnel, on se rend compte d'une chose très simple, c'est que la musique a besoin de temps et de silence également. Cheli Bidak représente parfaitement le silence. Il faut aussi écouter pas seulement Beethoven, mais on peut écouter les symphonies de Brahms par lui. Il y a une version extraordinaire de la sixième de Tchaïkovski, la pathétique, où cette notion de silence est absolument représentative de ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé et qui m'influence encore aujourd'hui beaucoup dans mon travail.
Alors, c'est le lieu des confidences, hein, le parti d'en jouer. Hein. Vous avez accepté la règle, Guillaume Vincent.
Ah oui, oui, oui.
On peut peut-être en faire une avant d'écouter le morceau qui suit.
Oui.
C'est que vous auriez rêvé être bassiste. SMV pour Stanley, Marcus et Victor. Il s'agit d'un album absolument mythique de Marcus Miller, Victor Wooten et Stanley Clark. Votre partie d'en jouer, Guillaume Vincent. Confidence pour confidence, vous auriez rêvé être bassiste.
Oui, mais alors c'est vrai que le piano est venu très naturellement du fait que dans ma famille, il y a toujours eu un piano chez moi. Ma mère est pianiste et jouait du piano quand elle était enceinte. Alors évidemment, je n'ai pas eu à choisir, c'est venu très naturellement. Je n'ai pas hésité avec le violon ou n'importe quel autre instrument. Par contre, quand j'ai découvert le jazz à 11-12 ans et puis ensuite j'ai découvert le Marcus Miller, la funk, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis presque dit pourquoi est-ce que j'ai pas fait de la funk, pourquoi est-ce que j'ai pas fait du jazz, de la basse plutôt que du piano, mais évidemment.
Et pourquoi Tchéli Bidak n'a pas dirigé de la funk?
Ah bah vous imaginez le fantasme un peu, ça serait incroyable, ça serait énorme.
J'ai l'impression que, bon, les basses, on pourrait faire un petit rapprochement facile avec les graves du piano. Est-ce que les graves du piano, c'est excitant?
Oh bah là,
ou pas oui. Plus que ça, ou c'est un peu trop premier degré?
Non, puis c'est vrai que la plupart des pianistes aiment bien jouer les basses, par exemple des pièces de Brahms, ce qui plaît, c'est cette espèce de, à la fois de largeur, mais de pouvoir avoir, faire corps avec son instrument. On a besoin de planter des octaves dans les basses du piano, c'est un plaisir assez, j'ai envie de dire, presque humain et très pianistique à mon sens. Moi j'aime bien improviser chez moi quand je suis seul, parce que je n'aime pas forcément qu'on m'écoute improviser, je ne pense pas avoir un niveau d'un jazzman, mais je passe régulièrement du temps à improviser chez moi, au moins une heure par jour, et même si je pars sur une basse classique, je me retrouve à imiter Marcus Miller avec ma main gauche. Donc,
alors rien n'est grave dans les aigus, peut-être que c'est l'inverse dans les graves, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un ADN de danse dans votre famille.
De danse. Alors, c'est marrant que vous dites ça, parce que ma mère, du côté de ma mère en général, on a toujours fait de la danse et de la musique. C'était pas du jazz ni de la danse contemporaine, c'était de la danse classique. Moi-même, j'en ai fait très peu. J'en ai fait, mais je me suis rendu compte que c'était plutôt la musique qui m'attirait. À part ça, je suis un très très mauvais danseur. Donc, je suis pas sûr que ça m'ait beaucoup influencé, mais par contre, le jazz, oui, et l'improvisation, c'est quelque chose qui nourrit, je pense, mon travail quelque part et qui forme mon oreille beaucoup. Moi, j'aime bien m'asseoir avec des amis et écouter de la musique. Ces plaisirs-là sont les meilleurs pour moi.
Alors, jazz, c'est un petit peu ce qu'on va entendre ici dans un bis, un encore, on dit en anglais, d'Horowitz, qu'il jouait très souvent à la fin de ses concerts sur un hymne patriotique américain, l'honneur un petit peu de sa citoyenneté américaine.
Oui.
Mais qu'il a un peu délaissé au bout de 10 ans en disant que le public ne retenait que ça de ses concerts,
et oui,
public américain. Et ça s'appelle Stars and Stripes Forever. On en parle juste après avec vous, Guillaume Vincent.
Thank you.
qu'en concert, Vladimir Horowitz dans le Stars and Stripes Forever, un hymne patriotique américain qu'Horowitz jouait très très souvent en bis, et c'était le cas ici en 1951. Avec vous, Guillaume Vincent, alors c'est vrai qu'on parlait de virtuosité, on parlait de basse, des graves, de la dimension de la danse, et puis de cela, de ce que jouait Horowitz, et qu'il a un petit peu délaissé au bout de 10 ans parce que le public ne lui parlait que de ça. Vous, qu'est-ce que vous jouez en bis? Est-ce que vous avez une pièce fétiche? Parce que c'est quand même du domaine du fétichisme, le bis.
Oui, alors c'est vrai que pour ma part, je suis pas. Je préfère faire des bis plutôt lents et plutôt calmes, comme pour apaiser un programme trop explosif, par exemple. Alors que la plupart des gens, des amis à moi, aiment bien finir sur la virtuosité, la démonstration. Quelque chose qui donne envie d'applaudir tout de suite. Moi, je préfère que les gens ferment les yeux pour le bis, comme si c'était une sorte d'amen pour clore un concert, pour fermer les rideaux. J'ai tendance à faire des bis lents. Je pense à Chopin, je pense à Rachmaninov, un prélude de Chopin ou un prélude de Rachmaninov. Bon, c'est pas très original. Et il y a une époque où j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 13-14 ans, où j'aimais bien faire des bis complètement décalés. Alors, c'est pour ça que je...
Comme quoi, par exemple ?
J'aimais bien improviser. Faire des musiques de films que je reproduisais à l'oreille. J'ai même fait presque des numéros. Parfois, j'aimais bien jouer à l'envers. J'aimais bien faire des choses qui s'échappent complètement de la musique classique. Et aujourd'hui, et puis avec le temps, je me suis un petit peu assagi, et peut-être un petit peu trop.
Votre parcours, Guillaume Vincent, ressemble un petit peu à celui d'un enfant qui a beaucoup de facilité, très tôt. Si je dis par exemple aux auditeurs qui nous écoutent qu'à 13 ans vous jouez dans un petit club, le Lions Club d'Annecy, le premier concerto de Beethoven, qui est une expérience très importante pour vous, bon, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Comment vous l'avez vécu, vous? Est-ce que vous étiez conscient de cela, sachant que quand on est enfant, on va peut-être aussi vers ce pourquoi on a des facilités?
À 10 ans, 11 ans, 12 ans et 13 ans, j'ai joué un concerto différent. Donc il y a eu le concerto numéro 1, le concerto numéro 3 de Beethoven. J'ai fait aussi un concerto de Mozart, le 21e, et un concerto de Haydn également. Enfin, en bref, j'ai été assez rapidement confronté au vrai répertoire, au grand répertoire plutôt. Alors, je ne me rendais sûrement pas compte à l'époque. J'avais une manière d'aborder les choses beaucoup plus simple et je me posais moins de questions. C'est ce qui se passe en général quand on a 10 ans. Le danger, c'est justement de perdre cette fraîcheur, de perdre cette spontanéité. Je me souviens que François-René Duchâble, qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts, il m'a dit une chose: c'est très bien que tu rentres au Conservatoire de Paris, mais attention de ne jamais perdre ton identité musicale, attention de ne pas, en bref, de ne pas se laisser trop, si je puis dire, bourrer le crâne par tous les cours théoriques qu'on peut nous enseigner au Conservatoire. Et Dieu sait si le Conservatoire de Paris est une école formidable, où j'ai pu apprendre énormément, que ce soit en déchiffrage, en piano ou en harmonie. J'ai toujours fait attention au maximum de garder cette spontanéité, garder cette identité finalement, de ne pas se perdre dans le travail et de ne pas travailler, par exemple, pour faire plaisir à quelqu'un ou pour faire plaisir à un professeur. Je pense d'ailleurs qu'un bon professeur, c'est quelqu'un qui donne des outils, qui est là pour former son élève, mais qui ne l'empêche pas d'évoluer. Il faut qu'il le laisse libre. Ça, c'est une méthode très pédagogique, mais qui, à mon sens, est la plus efficace. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont laissé libre et j'ai pu choisir le programme que je voulais. On m'a rarement imposé des pièces. Thank you.
Un extrait de la ballade de Gérard Gasparian, joué par Hideki Nagano, et que vous avez joué très récemment, Guillaume Vincent.
Bah c'est vrai que quand vous m'avez demandé de faire une liste pour la radio, alors évidemment, instinctivement, je me suis dirigé vers des compositeurs romantiques. Mes influences sont plutôt romantiques. Je me suis dirigé vers le jazz, mais il me semblait important quand même de faire un clin d'œil à la musique actuelle, aux compositeurs d'aujourd'hui. Et parmi ces compositeurs, je voulais donc diffuser un extrait de la musique de Gérard Gasparian, qui est un compositeur que j'admire beaucoup. Et par ailleurs, il organise un festival en Normandie qui s'appelle L'Heure poétique et musicale, dans lequel j'ai joué il y a quelques jours. Donc je suis encore dans sa musique.
Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on écoutait le grand Vladimir Horowitz.
Oui.
Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on écoute Horowitz, notamment en concert, parce qu'en fait, il en a donné assez peu de concerts, beaucoup sont enregistrés, le Horowitz de studio n'est pas celui du concert.
Oui.
Et on a toujours cette impression que pour lui, le concert est le lieu où il advient quelque chose qui le révèle lui-même. Et on sent cela dans son jeu, tout simplement, mais aussi dans le rapport avec le public. C'est comme si on sentait l'écoute du public et l'impression qu'il ne peut être pleinement lui-même que dans cette situation-là.
C'est un artiste qui savait se transcender vraiment sur scène, qui savait se mettre à nu.
Et vous, Guillaume Vincent ?
J'essaie de prendre exemple sur lui. J'essaie d'être dans le même état d'esprit. Au mon sens, le rapport entre l'interprète et la scène et le public doivent être très intimes. Il ne faut pas hésiter à se mettre à nu. C'est quelque chose de très impudique, finalement, la
mais
scène.
Mais dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, celle qu'on dit sociale, on ne se met jamais à nu, c'est pas vrai.
C'est très différent. Et puis, moi, comme beaucoup, je me sens vraiment moi-même. Je me sens vraiment exister dans la musique, plus que dans la vie. J'ai l'impression de vraiment me transcender. En tout cas, j'essaie de ne penser à rien et de laisser mes propres instincts parler quelque part. Je veux éviter le contrôle. Je veux éviter de penser trop.
Et il y a des fois où vous n'y arrivez pas ?
Quand je n'y arrive pas, c'est en général quand je ne suis pas prêt. Quand je n'ai pas assez travaillé et donc quand je ne suis pas suffisamment à l'aise pour fermer les yeux. Ce que j'aime, c'est sortir d'un concert et me dire mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas comment j'ai joué. Si je m'abandonne vraiment à la musique, j'aurai rempli mon rôle.
Alors, il y a un tournant pour vous, Guillaume Vincent, c'est à 17 ans, concours Marguerite Long en 2009, où vous remportez, je crois, le troisième prix. Alors, on va parler de votre rapport particulier à Rachmaninov au travers de la prochaine pièce. C'est Rachmaninov lui-même au piano, avec Ormandy à la direction, dans le troisième concerto de Rachmaninov.
Thank you.
enregistrement absolument mythique, 1939, l'orchestre de Philadelphie, Eugène Ormandie à la baguette et surtout Sergueï Rachmaninov dans son troisième concerto, le troisième mouvement, le final. Alors ce n'est pas cette œuvre, hein, Guillaume Vincent, que vous avez joué pour la finale du concours Marguerite Long en 2009, c'est le quatrième concerto.
Oui.
Et, mais c'est une expérience intéressante parce que bon, le concours est-elle d'ailleurs une expérience intéressante, oui ou non ?
Oui, absolument. C'était le premier concours international que je passais. C'est un concours qui m'a énormément aidé et énormément marqué. Alors, moi, j'avais travaillé ce concerto parce que j'avais le choix entre le premier ou le quatrième de Rachmaninov. À la base, je voulais faire le troisième, mais il n'était pas dans la liste proposée. Alors, j'ai fait le quatrième parce que c'est un concerto qui est beaucoup moins joué, beaucoup moins enregistré et très, très différent des trois premiers. On a l'impression que Rachmaninov a beaucoup mûri et qu'il s'est passé énormément de choses entre le troisième et quatrième concerto dans sa vie pour qu'il en arrive à écrire ses pages qui sont très tournées vers le modernisme et vers l'écriture de Prokofiev, par exemple. C'est un concerto un peu plus poussé, à mon goût, plus riche et aussi difficile d'ailleurs que les trois premiers.
Alors le Rach 3, Rach 4. Oui. Et alors, bon, pour l'anecdote, c'est quand même Jean-François Hessert, vous avez 17 ans, vous êtes au CNSM de Paris, et puis Jean-François Hessert, qui est un de vos professeurs, vous dit pourquoi ça ne te dirait pas de passer le concours Marguerite Long. Mm-hmm. Et donc, du coup, vous devez travailler dans l'urgence.
Oui, disons que j'ai eu quand même 3 mois à me préparer pour le concours, ce qui était quand même, je pense, suffisant. Mais je n'avais pas l'expérience des concours, et encore moins des concours aussi massifs, aussi importants que ce concours-là, Marguerite Long-Thibault. Et je me souviens avoir travaillé énormément les premières épreuves, parce qu'il y a 4 tours en général. Il y a le premier tour, il y a le deuxième tour, la demi-finale et la finale. Finale piano-solo et finale piano-concerto. Et je me souviens très bien que lors des 2 dernières épreuves, je n'étais pas suffisamment prêt. Et le concerto de Rachmaninov a été travaillé très dans l'urgence pour moi. Je ne le savais pas par cœur la veille de l'épreuve, par exemple.
Et comment on travaille son par cœur ?
En général, je retiens assez vite les morceaux par cœur, sauf que là, j'ai dû vraiment faire un travail, tout simplement par séquence, de faire un travail de connaître bien la partie d'orchestre aussi. Ça, c'est important quand on veut apprendre un concerto, surtout que ce concerto-là n'est pas forcément évident au niveau du rythme, au niveau des intentions, au niveau de la musique. Alors, j'ai travaillé énormément pour être suffisamment à l'aise au moment de le jouer. Et puis, comme c'était une expérience incroyable de jouer avec l'orchestre de Radio France, qui était le premier grand orchestre, entre guillemets, avec qui j'ai pu jouer, c'était une expérience incroyable et j'ai oublié que je n'étais pas prêt, quelque part. J'ai pu jouer et me faire vraiment plaisir en interprétant. Et puis, j'ai eu la chance de gagner, finalement, le prix du concerto, de la meilleure interprétation du concerto, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Alors, j'étais agréablement surpris, évidemment. Et c'est un concerto que j'ai découvert aussi par Cédric Bidache qui dirigeait Michelangeli.
D'accord. Alors, une autre expérience avant de parler justement de votre travail, parce qu'on parlera de notions qui vous sont chères, état d'esprit, volume sonore, articulation, le tout travaillé dans la lenteur.
Oui.
On va parler de cette lenteur parce que finalement, elle rejoint un petit peu celle de Tchelibidak. Mais avant cela, expérience, allez, osons le terme, un peu mystique. Vous avez joué le Via Crucis de Liszt.
Thank you.
La fin du Via Crucis de Franz Liszt, interprété par Brigitte Engerer au piano, le chœur de chambre, Accentus, dirigé par Laurence Equilbet. Et surtout, avec vous, Guillaume Vincent, cette expérience un petit peu mystique qui rejoint l'idée de lenteur, de nudité, d'ascèse, de rentrer en soi pour trouver une forme de vérité. Dans ce langage-là, j'aurais presque envie de vous demander, mais quand vous réécoutez cela, où êtes-vous ?
La première chose que je remarque, c'est déjà... qu'évidemment c'est très différent, je crois que c'est la première fois que j'écoute cette pièce, c'est très différent de l'interpréter et de l'écouter. Moi quand j'ai interprété cette pièce, je me suis senti comme un récitant, c'est-à-dire que c'est une écriture tellement décousue, tellement dénudée que finalement on est très très loin du Liszt romantique. Là on est dans des pages qui sont plus tournées vers Berg par exemple, extrêmement modernes pour du Liszt. C'est d'ailleurs là où on voit que c'est un grand révolutionnaire et un grand visionniste. Et donc on se sent un peu perdu quand on joue cette pièce-là, parce qu'on sent bien que Liszt cherche un peu son chemin, et on le cherche avec lui quelque part. C'est une pièce très longue, à mon avis, je crois qu'elle fait 45 minutes. Et quand vient cette dernière pièce, cette dernière station en ré majeur, luminant, c'est un moment incroyable quand le chœur rentre et qu'on finit cette pièce de cette manière-là. Ça me laisse beaucoup d'émotions en l'écoutant, mais je pense que le moment où j'ai joué ça... c'était au Musée d'Orsay, c'était en 2011, avec le chœur à Edès.
Et Mathieu Romano.
Et Mathieu Romano à la direction, c'était un souvenir particulièrement fort.
Ah, et vous me dites aussi souvent, Guillaume Vincent, que vous avez plutôt des voix en tête. Pas forcément des images. C'est vrai que souvent, les musiciens parlent en termes d'images. Mais il y a quelque chose chez vous qui est peut-être plus proche, vous disiez récitant, on pourrait dire évangéliste.
Oui, moi je pense
proche du théâtre.
Le théâtre, oui. Le théâtre et la musique sont intimement liés. Je ne vois pas de couleurs, je ne vois pas de paysage particulier. Bien sûr, ça peut m'arriver, mais moi, je pense plutôt à une voix, à une phrase parlée. Je travaille surtout la phrase. J'essaye de, comme un comédien va travailler sa phrase, de trouver la note, le mot le plus fort, le mot qui va construire et qui va donner la main aux autres pour justement avoir cette horizontalité.
Ça ressemble un petit peu à ce que disait aussi Tchéli Bidak, hein, ce que vous dites là.
Oui, oui.
C'est-à-dire que dans chaque morceau, dans chaque construction, il y a comme une gradation autour d'un climax, d'un paroxysme.
Moi, j'aime bien écouter un morceau en me disant il n'y a qu'une seule ligne, une seule grande ligne du début jusqu'à la fin.
Clarté de l'énonciation,
la clarté, le
tout, travailler silence. Dans la lenteur. Vous travaillez beaucoup dans la lenteur.
Je travaille que lentement. Je ne travaille jamais au tempo, ou alors, pour me rendre compte, peut-être la veille d'un concert, ce qui peut être pas mal, de quel tempo je vais prendre. Mais le tempo, vous savez, j'accorde pas beaucoup d'importance à ça.
C'est étonnant parce que par rapport à la dernière pièce qu'on va entendre, Virtuosité, le souffle du presto, avec une musique qui vous tient vraiment à cœur, Guillaume Vincent. C'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure le jazz.
Oui.
C'est la musique manouche.
Oui, et puis ça me rappelle mes premières années à Paris, parce que bon, je suis rentré à 13 ans au conservatoire et je n'avais pas le même caractère qu'aujourd'hui. Évidemment, j'étais beaucoup plus renfermé et je n'avais pas beaucoup d'amis, de contacts. Je rasais un peu les murs au conservatoire et je voulais retourner très vite dans ma province. Alors, le soir, je cherchais à me distraire et j'allais très régulièrement voir des concerts dans les bars, des manouches, jouer une guitare, un violon. Je me suis beaucoup intéressé au jazz manouche. C'est le premier jazz que j'ai découvert quand j'avais 10 ans, 10, 11 ans. J'étais dans un stage de musique à Courchevel. Et puis, il y avait des concerts classiques, mais il y avait forcément le concert de jazz. Et puis, j'y suis allé et j'étais tout de suite très impressionné par ce style de musique avec la formation habituelle. C'est-à-dire qu'il y avait un violon, une contrebasse, deux guitares. Et j'ai donc très, très vite découvert Django Reinhardt, évidemment. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui que j'admire énormément, comme Angelo De Bar, qui est un guitariste que je vais voir régulièrement. Il se produit au restaurant Les Petits Joueurs, qui se trouve au 19e arrondissement.
Avis aux amateurs.
Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, ça vaut vraiment le coup.
Alors, dernière question, Guillaume Vincent. Maintenant, vous pouvez dire que vous avez des amis dans la musique ?
Oui, oui, oui. En tout cas, je n'ai jamais ressenti le moindre esprit de compétition. Et la plupart de mes amis musiciens sont des gens que j'admire beaucoup.
Il faut admirer pour être ami en musique ?
Pas forcément, mais c'est quand même... Je reste convaincu que si on est sincère avec ce qu'on fait et qu'on n'a pas cet esprit de compétition absurde, c'est comme ça qu'on avance, tout simplement.
Oh yeah, oui, on entendra peut-être votre jeu, Guillaume Vincent, un peu différemment, sachant que cette musique vous fait partie de vous aussi, Angelo De Bar et Ludovic Beyer, Minor Swing, pour refermer votre partie dans Jouer. Un très très grand merci à vous. Perrine Mingui a réalisé cette émission, Bruno Mourlan était à la prise de son du mixage, avec bien sûr Jean-René Bonissant à la préparation. Un grand merci à eux. Vous pouvez podcaster cette émission, on vous met bien sûr toutes les dates des prochains concerts de Guillaume Vincent sur le site du Parti d'en jouer, sur francemusique.fr. Passez un très bon dimanche soir à l'écoute de France Musique. Bientôt 22h, vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau, comme si vous y étiez. Bonsoir Jérémy.